La Bible dit, affirme, que l'être humain est pécheur et que son péché le sépare de Dieu, le condamne aux yeux de Dieu. La Bible dit aussi que dans son amour pour l'être humain qu'il a créé, Dieu a pourvu une solution au problème de son péché par sa grâce. Manifesté en Jésus-Christ. Une grâce qui justifie le pécheur, qui le déclare juste devant Dieu. Deux versets de l'Épître aux Romains disent admirablement ce que je viens d'esquisser. Ce sont deux versets de l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24, car il n'y a pas de distinction. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La question que j'aimerais poser ce matin et à laquelle je vous propose de réfléchir maintenant, est la suivante. Y a-t-il quelque chose qui puisse empêcher l'être humain de bénéficier de la grâce de Dieu ? Qui puisse l'empêcher d'être justifié par sa grâce ? Existe-t-il un obstacle à la grâce de Dieu ? Un ancien cantique que nous chantons parfois dit que la grâce de Dieu est sans fond ni rive. Autrement dit, qu'elle n'a pas de limite. Est-ce vraiment le cas? Existerait-il un péché suffisamment grand, suffisamment horrible, pour éloigner à tout jamais l'homme pécheur de la grâce de Dieu? En réfléchissant à cette question, il m'est apparu une réponse que j'aimerais décliner ce matin au travers d'une parabole bien connue. Il s'agit de la parabole du pharisien et du publicain, que je vous invite à suivre soit dans vos Bibles, soit à la projection qui se trouve derrière moi. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, et je lis à partir du verset 9. Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Avant de revenir sur cette question des obstacles possibles à la grâce de Dieu, j'aimerais que nous passions en revue les différents éléments de cette parabole qui vont forcément enrichir notre réponse. Et vous le constatez avec moi, vous le savez, tout dans cette parabole fonctionne par paire, fonctionne par deux. Il y a deux hommes, il y a deux attitudes et il y a deux conclusions. Cette parabole très connue a souvent été mise à toutes les sauces. est souvent utilisé pour aborder des sujets tels que la prière ou l'orgueil. Il est effectivement question de prière dans notre parabole. Il est aussi question d'orgueil. Mais si nous faisons de ces choses le centre, le cœur de cette parabole, alors nous faisons fausse route. Nous faisons fausse route parce que le thème de cette parabole, du pharisien et du publicain, c'est la justification. Jésus n'a pas enseigné cette parabole pour nous apprendre à prier. Il y a d'autres textes pour cela. Ni pour dénoncer le péché d'orgueil, mais pour nous dire comment on est ou pas justifié devant Dieu. Et il en profite pour dénoncer au passage certaines attitudes. Je lis au verset 9. « Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Il y avait parmi les auditeurs de Jésus des personnes qui se persuadaient d'être justes, alors qu'elles ne l'étaient pas. Et c'est avant tout à elles que Jésus s'adresse dans cette parabole. Quelques mots sur les deux personnages de notre histoire. Nous poursuivons notre lecture au verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Jésus met dans cette parabole en situation deux personnages qui se trouvent dans le temple à Jérusalem. C'est l'heure de la prière et tous les deux montent au temple pour prier. Je propose de voir dans l'ordre ces deux personnages et de commencer donc par le pharisien. Pour bien comprendre l'histoire que Jésus raconte, pour bien comprendre les réactions et les émotions qu'il veut susciter chez ses auditeurs, il est important que nous comprenions bien qui sont ces deux personnages. Et à ce stade, vous et moi sommes très désavantagés. Très désavantagés tout simplement parce que nous vivons à une autre époque et nous vivons dans une autre culture et que les décalages entre les deux sont immenses. Désavantagés aussi parce que très souvent devant ce texte et devant d'autres textes qui font intervenir ces personnages, nous avons très souvent des clichés. Très souvent des clichés anachroniques, mais des clichés que nous calquons sur notre texte. Et pour vous et pour moi, le mot pharisien est un mot qui est synonyme d'hypocrite, de légaliste. C'est pour vous et pour moi un terme essentiellement péjoratif. Nous en avons tellement entendu sur les pharisiens que d'emblée, nous les cataloguons comme les mauvais, les méchants. Et je pense que vous prendriez comme moi, comme une insulte, si quelqu'un vous cataloguait de pharisien, espèce de pharisien, ça ne nous plairait pas trop. Il est essentiel à la compréhension de notre texte de saisir qu'il existe un décalage énorme entre ce que Jésus a pu dire des pharisiens, qu'il va très souvent critiquer, et ce que les contemporains de Jésus et de ces mêmes pharisiens pensaient d'eux. Et au temps de Jésus, les pharisiens étaient tenus en très haute estime par le peuple. Ils incarnaient aux yeux de la foule le modèle parfait de la piété. L'exemple d'une vie sainte et juste. Il y avait en Palestine, à cette époque, quatre grands partis religieux, les Sadducéens, les Esséniens, les Zélotes et les Pharisiens. Et chaque groupe avait sa spécificité. Celle des Pharisiens, c'était l'observation stricte de la loi de Moïse. Ces Pharisiens avaient la conviction que l'exil babylonien, pas si éloigné que ça, quelques centaines d'années, avait été la conséquence de l'abandon de la loi par le peuple. Et ils avaient donc décidé de consacrer toute leur attention, toute leur énergie, et c'est peu dire que de dire qu'elle occupait une très grande place dans leur piété. Les pharisiens avaient donc pour principe de vie l'observation stricte de tous les commandements de la loi. Et comme nous allons le voir un petit peu plus tard, les pharisiens allaient même très souvent au-delà des exigences de la loi pour être sûrs de ne pas se rendre coupables envers elle. Les pharisiens étaient donc des membres respectés, honorés par le peuple, par la société juive de l'époque. Et quand Jésus introduit le pharisien dans cette histoire, tout le monde s'attend à ce que Jésus en dise du bien. Il n'y a aucun doute aux yeux de la foule, le pharisien sera le héros de cette histoire. Pour ce qui concerne le publicain, le collecteur des taxes, les choses sont bien différentes. À la mention de son nom, il est fort possible qu'une huée se soit faite entendre. Dans le spectre de l'affection de la foule, le publicain, le collecteur des taxes, est à l'opposé, aux antipodes du pharisien. Autant les pharisiens étaient admirés et respectés, autant les publicains, les collecteurs des taxes, étaient rejetés et haïs. Les publicains, que l'on appelait aussi péagers, les collecteurs d'impôts, étaient parmi les gens les plus méprisés de l'époque. On les méprisait parce que beaucoup d'entre eux étaient des voleurs qui s'enrichissaient sur le dos de leurs concitoyens. On se rappelle de l'histoire de Zachée. Mais on les méprisait surtout parce qu'ils travaillaient à la solde de Rome. Dans la Palestine occupée de l'époque, ces collecteurs d'impôts étaient des traîtres, étaient perçus comme des traîtres, des collabos aux yeux de leurs contemporains. Alors si le baromètre de la popularité des pharisiens indiquait très beau temps, celui de la popularité des collecteurs d'impôts marquait avis de tempête. Les publicains avaient très mauvaise réputation. Et quand nous lisons des écrits rabbiniques, nous ne sommes pas surpris de trouver qu'ils étaient catalogués parmi les voleurs. Et dans les évangiles, leur nom est souvent associé, souvent synonyme de pécheurs, souvent associé aux gens de mauvaise vie. Et la prière du pharisien traduit tout à fait cela quand il loue Dieu de ne pas être, surtout pas, comme ce collecteur d'impôts. Et quand Jésus introduit le publicain dans cette parabole, tout le monde s'attend à ce que Jésus en dise du mal, qu'il le critique, qu'il dénonce sa mauvaise vie. En apparence, les choses sont simples dans cette histoire. Il y a un gentil et un méchant, il y a un bon et un mauvais, il y a un juste et un injuste. Il y aura bien évidemment un bouleversement total des valeurs à la fin de la parabole. Le juste, tout comme l'injuste, n'est pas forcément celui qui en a l'air. Vous et moi, nous le savons. Mais ceux à qui Jésus raconte l'histoire pour la première fois ne le savent bien évidemment pas encore. Passons maintenant aux deux attitudes qui sont présentes dans cette histoire. Nos deux hommes montent tous les deux au temple pour prier. Et ils le font très certainement pendant le temps de la prière publique, qui avait lieu deux fois par jour, au moment où on offrait les sacrifices pour le péché du peuple. Et comme c'était la pratique à l'époque, nos deux hommes prient debout. Ce serait bien évidemment mal connaître la culture de l'époque que de voir là un quelconque signe d'orgueil. Le contenu de leur prière va révéler leur cœur. et en particulier leur attitude à l'égard de Dieu. Commençons par la prière et l'attitude du pharisien. Nous sommes au verset 11 et 12. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Comment résumer l'attitude du pharisien? L'attitude du pharisien, c'est la propre justice. C'est la propre justice qui l'amène immanquablement au mépris et au jugement des autres. Cependant, ce que nous devons bien comprendre ici, c'est que très certainement tout ce que le pharisien dit dans sa prière est vrai. D'ailleurs, nulle part Jésus ne suggère que ce ne soit pas le cas. C'est là sans doute le plus choquant de l'histoire. Tout ce que cet homme dit est vrai, et pourtant, il ne rentrera pas justifié devant Dieu. J'aimerais noter trois choses concernant l'attitude du pharisien. Premièrement, il est dit qu'il se tient à l'écart. Pas tout à fait dans cette traduction-là. La syntaxe du texte grec permet en réalité deux lectures différentes du début du verset 11. Soit il faut lire, comme c'est le cas ici, « il priait debout, ainsi en lui-même », ou alors, on peut aussi lire « il se tenait debout par lui-même et priait ». Personnellement, je crois que le contexte favorise cette deuxième lecture. Il se tenait debout par lui-même et priait. De plus, la prière était généralement faite à haute voix, et il est assez difficile d'imaginer que le pharisien priait à haute voix en lui-même. Alors, ça, ce sont des suppositions, mais si ces suppositions sont justes, alors notre texte dit que le pharisien se tenait debout par lui-même. Il dit qu'il s'était mis à l'écart des autres pour bien marquer sa différence, et en particulier pour bien marquer sa différence d'avec le publicain, dont il se distingue bien dans sa prière. Notre pharisien se tient à l'écart. Sa position témoigne de sa propre justice. La propre justice conduit toujours à l'exclusion des autres. Deuxièmement, il se félicite. Il se félicite de ne pas être comme le reste des hommes, et en particulier pas comme ce publicain. Il se félicite parce que lui est juste. Lui est juste et pas les autres. Et sa prière mentionne deux éléments de piété, de sa piété, le jeûne et la dîme. En matière de jeûne, la loi n'imposait qu'un seul jeûne par an, un seul, le jour des expiations. Mais notre pharisien, lui, jeûne deux fois par semaine. Il y a là, à ses yeux, de quoi se féliciter. Mais ce n'est pas tout. En matière de dîme, la loi imposait la dîme de tout ce que produisait la semence semée. Lui donne la dîme de tous ses revenus. Ici encore, il y a à ses yeux de quoi être fier. Et notre pharisien se félicite. Les éloges qu'il se fait témoignent de sa propre justice. Et la propre justice conduit toujours à se croire meilleur que les autres. Troisièmement, il critique le publicain. La propre justice nous pousse à nous couper des autres, elle nous conduit à nous croire meilleurs que les autres, et enfin, elle nous incite à juger les autres. Et le pharisien ne s'en prive pas, il juge ce collecteur des taxes. Heureusement que lui n'est pas comme ce pécheur. Alors que faut-il penser de tout ceci? Pour nous, il est facile de nous faire une opinion juste du texte. Nous savons ce que Jésus va dire. Mais qu'en est-il de la foule? Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de choquant pour la foule dans ce que Jésus vient de dire du pharisien. Oui, le pharisien se sépare des autres, mais il est différent des autres. Oui, le pharisien se félicite de sa piété, mais qui n'aimerait pas pouvoir en dire autant pour lui-même? Oui, le pharisien méprise ce péager, mais ce traître le mérite bien. Et je pense qu'à l'écoute de la prière de notre pharisien, l'admiration de la foule devait se lire sur les visages. Pour la foule, le pharisien reste l'homme à la piété exemplaire. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas de doute, cet homme est juste aux yeux de Dieu. Passons au publicain. Je relis le verset 13. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis ». Nous notons que la prière du collecteur d'impôts est plus courte. Son attitude est radicalement différente. Devant Dieu, le publicain se reconnaît pécheur. Il reconnaît être le méchant de l'histoire. Et l'auditoire ne peut certainement qu'acquiescer. À l'opposé du pharisien, le publicain s'abaisse. Mais quoi de plus normal? J'aimerais ici aussi relever trois choses concernant la prière de cet homme. Premièrement, il est dit qu'il se tient à distance. Le publicain ne se tient pas à l'écart, mais il se tient à distance. Et la nuance est importante. Elle est importante parce qu'elle témoigne de l'attitude du cœur. Le pharisien se tenait à l'écart pour signifier sa supériorité, on ne se mélange pas. Le publicain se tient à distance parce qu'il se sait indigne de Dieu. Mais une fois de plus, rien d'anormal. Il est indigne, tout le monde le sait. Se tenir à distance est la seule attitude qui convienne pour lui. Notre publicain se tient à distance et il n'ose pas lever les yeux au ciel. Lever les yeux au ciel, c'était l'attitude normale dans la prière à cette époque. Mais là encore, rien d'anormal qu'il n'ose pas lever les yeux au ciel. C'est une évidence pour la foule. Il ne manquerait plus qu'un tel pécheur ose lever les yeux vers Dieu. Deuxièmement, il se reconnaît pécheur et il se repent. Le texte précise qu'il se frappe la poitrine. C'est un geste symbolique, lourd de sens. À cette époque, on se frappait la poitrine en public pour marquer un deuil profond, pour marquer une contrition extrême ou alors un grand désespoir. Et clairement, notre homme est en prise avec sa conscience. Elle l'accable devant Dieu. Il se frappe la poitrine parce qu'il est conscient de son péché, conscient de son indignité devant Dieu. Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Le publicain est conscient que la colère de Dieu repose sur sa vie à cause de son péché. Le verbe utilisé ici pourrait aussi se traduire par « faire l'expiation ». Le publicain demande à Dieu d'expier ses fautes. Il est intéressant de noter que ce verbe a la même racine que le mot « propitiatoire ». Vous vous souvenez, le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance, sur lequel le souverain sacrificateur venait une fois l'an faire l'aspersion du sang de la victime, de l'agneau sacrifié, pour faire l'expiation du peuple, des péchés du peuple. Et en faisant cela, symboliquement, il détournait la colère de Dieu que le peuple méritait, il la détournait sur la victime offerte en sacrifice. Et ce que le publicain est en train de demander ici à Dieu, c'est d'être propitié. Alors ce verbe n'existe pas, je crois, en français. On le met entre guillemets. Il demande à Dieu de détourner sa colère de lui. Voilà le sens de ce mot. La colère qu'il mérite à cause de ses péchés, de détourner sa colère sur le sacrifice qui est en train d'être offert dans le temple au même moment. Voyez-vous, le publicain se sait coupable. Il se reconnaît coupable. Il sait qu'il mérite la colère de Dieu. Il sait qu'il n'a aucun mérite à offrir à Dieu. Il sait que seule la grâce de Dieu peut le secourir et le justifier. Voilà pour les deux attitudes. Et je crois qu'à ce stade, la foule a dû être certainement dans l'embarras. Car même si à ses yeux le pharisien est juste, le publicain, le péager, tout misérable qu'il est, s'est totalement jeté dans la miséricorde de Dieu. Dieu ne pardonnerait-il pas à celui qui se repent, à celui qui s'en remet à sa grâce? Il y a un problème, n'est-ce pas? Problème, car comment le publicain et le pharisien pourraient-ils être tous les deux justifiés? C'est impensable. Comment est-ce que ces deux hommes pourraient être sur le même plan devant Dieu? Un mot pour terminer sur les deux conclusions. Quelles sont-elles? Avec la réponse de Jésus vient l'inattendu, le retournement de situation, le contre-pied total. Il n'y a qu'un seul juste, et ce n'est pas celui qu'on croit. Pour Jésus, le juste, c'est le collecteur des taxes. Le publicain rentre justifié chez lui, mais pas le pharisien. Ça a dû être un tsunami, toute proportion gardée. On peut imaginer l'onde de choc parmi la foule. Passe encore que le coupable soit déclaré juste, mais que le juste soit déclaré coupable, c'était tout bonnement impensable. Et la conclusion de Jésus met le doigt sur le pourquoi de ce verdict, au verset 14. « Eh bien, je vous le dis, c'est celui qui redescendit chez lui justifié, c'est celui-ci, en parlant du publicain, qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Le pharisien s'est élevé et il a été abaissé. Le publicain s'est abaissé et Dieu l'a élevé. C'est ici un des nombreux paradoxes de la foi. C'est quand je me reconnais coupable devant Dieu que je suis déclaré juste et que je peux recevoir la grâce que Dieu m'offre. Voyez-vous, pour être justifié de quelque chose, il faut d'abord que je sois coupable de quelque chose. Le pharisien ne pouvait pas être justifié parce qu'il n'était à ses yeux coupable de rien. La Bible affirme que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Seuls les pécheurs ont besoin du salut et de la grâce de Dieu. Seuls les coupables ont besoin de justification. C'est si simple et si compliqué à la fois. Si compliqué parce que par nature, nous sommes tous des propres justes. Par nature, nous sommes tous indépendants de Dieu. Par nature, nous sommes tous des êtres autosuffisants. Peut-être que certains d'entre vous me diront que cela ne les concerne pas. Vous pensez que cela ne vous concerne pas parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Et il ne s'agit pas de remettre cela en question. Vous gagnez honnêtement votre vie. Vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, vous aimez vos enfants. Vous n'êtes pas un voleur, vous payez vos impôts. Vous n'êtes pas un meurtrier, vous donnez à des œuvres de charité. Vous participez au Téléthon, vous votez quand il y a des élections. Vous êtes un bon citoyen. En quoi est-ce que tout cela vous concernerait-il ? Si telle est votre attitude, et je le redis, il ne s'agit pas de remettre en question votre honnêteté, alors je dois vous dire qu'elle ressemble à celle du pharisien dans notre texte. Et c'est cette attitude-là qui empêche l'être humain d'être déclaré juste devant Dieu, parce qu'il ne se reconnaît pas d'abord coupable devant lui. Et c'est là l'obstacle, le seul véritable obstacle à la grâce de Dieu. C'est mon autosuffisance, c'est moi-même, c'est ma propre justice, ce sont les mérites que je fais valoir devant Dieu, c'est mon orgueil, c'est mon indépendance vis-à-vis de Dieu. Et tout ça fait que je suis amené à ne pas reconnaître mon besoin de Dieu, à ne pas reconnaître mon péché et à ne pas reconnaître mon besoin de sa grâce. Mais je le redis avec l'Écriture, ce sont seulement les malades qui ont besoin d'un médecin. Ce sont seulement les pécheurs qui se reconnaissent coupables que Dieu justifie par sa grâce. L'obstacle à la grâce de Dieu, ce n'est pas un péché qui serait trop grand pour que Dieu puisse le pardonner. Dieu offre son pardon à celui qui se repent sans autre. Au brigand sur la croix, Jésus a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Il n'a pas eu le temps de descendre de la croix et de mettre toute sa vie en règle. Et pourtant, aujourd'hui même, dit Jésus, tu seras au paradis avec moi. L'obstacle à la grâce de Dieu, le seul obstacle à la grâce de Dieu, c'est moi-même. C'est de ne pas en vouloir. C'est de penser que je n'en ai pas besoin. C'est de ne pas croire, comme l'affirme la Bible, que je suis pécheur, coupable devant Dieu, et que je mérite le jugement de Dieu à cause de cela. Et pas besoin d'être un tueur pour être un pécheur coupable devant Dieu. Pas besoin d'être un terroriste pour être un pécheur coupable devant Dieu. La Bible affirme qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit-elle dans Romains 3. Et il suffit de donner un exemple pour illustrer cette vérité. Prenons le premier des commandements, où Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Qui peut prétendre y arriver ? Nous sommes tous coupables de ne pas respecter ce commandement et tant d'autres encore. Alors, quelle est la solution ? Y a-t-il une solution ? Oui, et elle s'appelle la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui nous est offerte gratuitement, qui est offerte à quiconque se repent, à quiconque reconnaît son besoin de Dieu, à quiconque s'en remet et s'abandonne à la grâce de Dieu. Peut-être êtes-vous sensible à l'appel de Dieu ce matin. J'aimerais vous inviter à venir à lui maintenant, sans autre, et à recevoir sa grâce, son pardon, et à repartir de ces lieux justifiés, comme ce fut le cas pour le publicain dans notre histoire. Amen. Je vous invite tous à chanter l'amour et la grâce que Dieu nous offre. Amour et grâce incomparables. Incomparables.